France Culture, question du soir, Matteo Caranta.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Question du soir consacrée à la fête. Dites-nous comment vous faites la fête, nous vous dirons qui vous êtes. Nous sommes au cœur de l'été et avec l'été, sauf pour l'équipe de Questions du Soir qui travaille tous les jours d'arrache-pied, eh bien arrive le moment des fêtes, des bals populaires et traditionnels, des sorties en boîte de nuit après la plage ou à la campagne, des festivals qui pullulent un peu partout, des férias, des terrasses bondées, des liesses sportives et même des fêtes interlopes et somnambules qui marquent la nuit jusqu'au petit matin. Autant de manières de faire la fête qui racontent une pluralité d'envies, de références, d'imaginaires, de portefeuilles aussi, avec des trajectoires parfois inversées et des contradictions. On salue les rassemblements populaires et sportifs, mais on en craint les violences. On dit désormais de Paris qu'elle est devenue un haut lieu de la vie nocturne en Europe, mais dans le reste du pays, les discothèques ferment les unes après les autres, à l'image du dernier Macumba, qui a éteint définitivement ses boules à facettes. Les festivals, les tiers-lieux sont plus nombreux que jamais, mais les bals de village vivotent, disparaissent aussi les uns après les autres. D'importants intérêts économiques se mettent en branle pour les sauver. Au nom de quoi ? Au nom du patrimoine et de la tradition. Alors que comprendre de ces transformations ? La fête est-elle essentielle ? Est-elle devenue la nouvelle piste de danse de la bataille culturelle ? Où va la fête ? C'est le sujet que nous vous proposons dans Questions du soir. Et pour en parler avec nous, trois invités. Philippe Steiner, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur émérite de sociologie à Sorbonne Université. Vous aviez publié il y a 2 ans aux Presses universitaires de France « Faire la fête, sociologie de la joie ». Et je crois que vous êtes par ailleurs un grand spécialiste des fêtes, des férias de Bayonne. Les fêtes de Bayonne, on va évidemment y revenir dans cette émission. À vos côtés se trouve Emmanuel Lallemand. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être venu dans le studio 341 de la Maison de la Radio. Vous êtes anthropologue du monde urbain, professeur des universités à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8 et membre de l'AVU, le laboratoire architecture, ville, urbanisme, environnement. Et vous réfléchissez aussi à la fête, peut-être un chapitre, un livre collectif à citer, L'enchantement qui revient. Vous aviez écrit l'événement festif contemporain ou les soubresauts de l'enchantement et nous allons également en parler. Et enfin, à distance, Alexandre Grondeau, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur des universités en géographie à Aix-Marseille Université, directeur adjoint du laboratoire Télém. Et vous aviez publié « Altermétropolisation, une autre ville est possible ». Vous travaillez aussi notamment sur les phénomènes des free parties ou des rêves, c'est selon le mot qu'on choisit, et nous allons également en parler. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 19h.
L'arrêté a été pris la semaine dernière par la préfète de l'Ardèche, interdisant la vente d'alcool après minuit et mettant en péril l'ensemble des fêtes de nos petits villages ruraux parce que nos associations, il ne faut pas se le cacher, elles récupèrent de l'argent en vendant des boissons et en particulier les boissons avec de l'alcool jusqu'à 2h du matin jusqu'à maintenant. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, les jeunes qui vont dans les fêtes de village vont boire de l'alcool nécessairement.
On veut que la rue soit à nous, on veut que la nuit soit à nous. À l'heure actuelle, on vit dans l'insécurité. L'année dernière, on a bien vu qu'il y a des femmes qui se sont faites violer dans les fêtes de Bayonne. Donc oui, on se mobilise, on essaye de faire des actions pour essayer de sensibiliser le public et puis pour dire... Écoutez, en fait, on est là, on ne va pas se laisser faire.
Alors, on ne se perd pas, étant donné qu'il n'y a pas de réseau dans Bayonne, étant donné le monde et l'affluence des personnes. Donc, on est là, on se tient par l'écharpe et voilà, et on se suit.
On va vous montrer la nouvelle salle de banquet dans les Landes. C'est incroyable.
On va se régaler, on va festoyer, on va célébrer le terroir landais.
Énormément bien.
Ça a été toujours utilisé dans tout type de revendication politique dans l'histoire des luttes. L'utilisation de l'art, la culture, la musique, la danse, c'est... centrale, c'est vraiment mais pléthore d'exemples, même là, pendant la Révolution française, la Carmagnole, on danse la Carmagnole, enfin vraiment, ça a toujours été présent, quoi. Pourquoi ? Parce que déjà, ça nous motive, ça nous remobilise, c'est super chouette, enfin, c'est, en fait, on y trouve de la joie qui est centrale.
La Carmagnole, les banquets, les corridas, les férias, plusieurs versions, plusieurs modalités de la fête. Et pour commencer cette émission, un tour de table, si vous le voulez bien, avec cette question qui est le titre de l'émission qui a été choisie par l'équipe. Où va la fête ? Alors, où va la fête, Philippe Steiner ?
La fête se porte bien, d'une certaine façon, il me semble, puisqu'on a des, comme vous l'avez rappelé, beaucoup d'occasions de faire la fête, le samedi, le dimanche, mais aussi en été, au Pays Basque, on doit avoir plus de 300 fêtes villageoises, par exemple. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment de l'activité. Elle se porte bien, parfois, aux fêtes de Bayonne, elle se porte peut-être un peu moins bien ailleurs, puisque les festivals sont endettés. Ils ont du mal à se financer. Et puis, il y a un gros problème de sécurité qui est quand même de plus en plus souvent posé, soit de sentiment de sécurité, d'insécurité, soit de problème de financement de la sécurité. Et donc, la fête est toujours un moment un peu d'instabilité sociale. Et donc, on est dans un moment un peu instable.
Elle est partout, mais elle est fragile, c'est ça ?
Elle est fragile, elle est partout, elle est mouvante surtout. Donc la question où va la fête, c'est intéressant parce que ça montre que c'est un phénomène adaptatif, évolutif, qu'il y a une dynamique de la fête, une multiplicité des fêtes. Et puis, effectivement, je vois dans votre question où va la fête une forme d'inquiétude, hein, une petite inquiétude qui pointe, c'est-à-dire on dit où va la fête comme on pourrait dire ben où va le monde. C'est-à-dire finalement, quel sens y prend, quelle direction et est-ce que finalement la fête est toujours quelque chose d'aussi enchanté, voire enchanteur, puisque vous citiez cet article, ou au contraire, doit-on y lire finalement toutes les contradictions, toutes les ambivalences, toutes les inégalités, les violences de notre société ? C'est vrai que la fête, c'est à la fois expression puis miroir de notre synthèse de notre société. Si bien qu'en se demandant où va la fête, on se demande bien effectivement où va le monde.
Alors où va le monde, Alexandre Grondeau, pour finir ce tour de table introductif ? Où va la fête ?
Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que il y a effectivement, comme disait ma collègue précédemment, plusieurs types de fêtes auxquelles on peut se référer. Et disons que pour être concis, on va dire que la fête marchande ordonnée et normée par l'État ou l'économie de marché, elle se porte bien, de mieux en mieux. Là où la fête libre, autogérée, et celle qui essaye d'être en dehors de la société marchande va beaucoup plus mal puisque elle est de plus en plus réprimée.
Alors la polémique, pour revenir un peu sur les derniers éléments de l'actualité autour des réactions publiques, autour des débats publics autour de la fête, il y avait eu une polémique à Paris après la victoire du PSG, mais d'autres polémiques ont eu lieu pendant la fête de la musique. On a entendu en introduction cette prise de parole du représentant des maires de l'Ardèche regrettant qu'un arrêté préfectoral mette en péril les balles de village, ou une membre de l'association féministe, du collectif féministe On veut que la rue soit à nous, qui dit on ne va pas abandonner les rues des fêtes à Bayonne. Et c'est cette ambiguïté que vous avez déjà tous les deux ici en studio souligné. D'un côté, il y a une forme d'ambivalence. La fête est perçue comme un événement qui concentre les dangers. Et de l'autre, elle est revendiquée comme un patrimoine, voire presque un droit de faire la fête. D'abord, vous, Philippe Stanner, et puis Emmanuel Lallemand.
Oui, par définition, la fête est un moment de désordre organisé, si je peux le dire comme ça, puisque pour prendre les fêtes qui ont lieu dans un cadre urbain, qui sont celles qui m'ont intéressé, soit en France, soit au Brésil, c'est la mairie qui organise la fête. C'est elle qui lance les clés à la foule, au roi Momo ou à la foule devant la mairie à la ville de Bayonne. Donc du coup,
on laisse les clés de la ville au festin,
comme on dit là-bas. Oui, on lance la clé, ça veut dire la ville est à vous. Mais d'ailleurs, la presse dit comme ça, la ville va être envahie par les festins, la ville s'ouvre aux festins, la ville est prise par la fête. Et donc, du coup, c'est un désordre qui est institutionnalisé, ce qui veut dire qu'il va y avoir à la fois l'acceptation d'un certain débordement, certaines modes de comportement qui d'habitude seraient proscrits, et en même temps une demande de maintien d'un ordre. Et par exemple, on va voir au fait de Bayonne des petites publications, soit dans les journaux, soit dans des individus qui se mettent à écrire eux-mêmes des passeports de la fête. Voilà ce que vous devez faire quand vous venez faire la fête à Bayonne. Voilà les bons comportements, donc le passeport du festin qui doit savoir ci, savoir ça, etc. Donc, on a cette ambiguïté qui est, je crois, native de la fête. Même nos fêtes laïques et civilisées, sans parler évidemment des carnavals qui institutionnalisent ça d'un point de vue religieux.
Emmanuel Lallemand.
Oui, effectivement. Alors, cette question du contrôle de la fête, c'est pas du tout nouveau. C'est vraiment une trame totalement native, comme vous disiez, de la fête. C'est-à-dire, organiser la transgression, vouloir la cadrer dans un espace, dans un temps donné. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on voit un discours de plus en plus inquiet, moralisateur, sur la fête. Et on prend toujours de grands exemples, type les matchs de foot, les grandes finales de matchs de foot, où là, on est dans une célébration où ce qu'il faut, c'est gérer une foule dans l'espace urbain. On est au-delà de la fête, on est dans la gestion d'une foule avec des phénomènes de sécurisation qui vont avec et des phénomènes de débordement. Mais c'est vrai que ce motif de la fête et de son débordement devient de plus en plus médiatique, de plus en plus important, et on est dans une forme de paradoxe où à la fois, chaque ville se doit d'avoir cette capacité d'organiser de grandes fêtes, et en même temps, il faut toujours mettre à l'index cette idée des voyous, cette idée des gens qui viennent pour qui sont des émeutiers, que certains ministres appellent des sauvages, voire des barbares, et qui viennent pour en découdre, en tout cas à la fin des fêtes, normalement dans l'espace public urbain.
Donc la fête n'est pas ouverte à tout le monde. La fête, c'est pas cet espace qu'on pourrait dire où, justement, pour garder cet espace bayonnais, puisque c'est l'exemple qui est en train de poindre dans la conversation, où tout le monde s'habille de la même manière, où finalement, l'individu disparaît dans une forme d'égalité, dissolution de l'individualité par la fête.
Oui, il peut y avoir ces aspects-là de la fête, ces dimensions, mais n'oublions pas que la fête est quand même un reflet de la société, et la fête, finalement, elle reproduit un certain nombre d'inégalités à l'œuvre dans la société, comme elle répond aussi à des formes de questionnements qu'on se pose aujourd'hui. Je pense notamment à la place des femmes dans la fête. Vous parliez évidemment, est-ce que la fête est pour tout le monde ? On voit bien que les femmes, dans les fêtes, n'ont souvent pas le droit au même relâchement que les hommes, que les débordements de ces grandes foules dites festives. Ben, il faudrait peut-être faire aussi une analyse genrée de cela, ça pourrait être intéressant de voir qui sont attribués les débordements. Certes, la fête est censée être pour tout le monde, mais elle va reproduire des formes, effectivement, d'exclusion. Elle est à la fois inclusive et exclusive. Alors là, on parle des grandes fêtes dans l'espace public urbain, mais la fête se privatise aussi de plus en plus. La fête veut dire aussi quelquefois dress code, et dress code veut dire donc frontière sociale et symbolique très très forte.
Dress code voulant dire code vestimentaire pour nos auditrices et auditeurs très pointilleux sur la question des anglicismes. Alexandre Grondeau, est-ce qu'une fête avec un passeport, c'est encore une fête ?
Bah, écoutez, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque week-end, et a fortiori peut-être chaque jour puisqu'on est en vacances, des jeunes Français qui désirent aller s'amuser et danser vont pas pouvoir le faire s'ils n'ont pas les moyens d'entrer dans un club, une boîte de nuit, ou de se payer les consommations d'un bar. Et même s'ils disposent de cette capacité financière, il est possible que, en fonction de leur aspect, l'entrée leur soit refusée, d'ailleurs de manière illégale, mais en raison de leur couleur de peau, de leur genre, de leur manière de s'habiller, de se coiffer. Donc, il existe de facto un passeport immatériel qui classe les gens et leur permet ou non d'avoir accès à une manière de faire la fête, comme disait mon collègue, institutionnalisée, organisée, le désordre contrôlé par le pouvoir. Et c'est ce qui explique le succès toujours grandissant de ce qu'on appelle les fêtes libres amplifiées, les free parties, qui chaque week-end ont lieu et pour le coup s'adressent à des gens qui peuvent y participer sans condition de race, de religion, de genre, d'idées politiques ou de capacités financières.
La sociologue Eva Illouz disait dans Les sentiments du capitalisme, la façon dont l'imaginaire capitaliste, elle racontait, la manière dont il s'immisçait dans notre manière d'aimer les autres. Est-ce que pour la fête, c'est la même chose, Philippe Steiner? Est-ce que dans ces, comme le dit Alexandre Grondeau, dans ces grandes fêtes publiques, dans ces grands espaces publics, finalement, la fête devient un outil marchand, un outil de marketing du territoire?
Marketing du territoire, ça très certainement. Mais je voudrais faire quand même des distinctions qui touchent à une question qu'on aborde rarement lorsqu'il s'agit de la fête, c'est le mode de financement. Et si on regarde le mode de financement des fêtes de Bayonne, que j'ai particulièrement étudié, mais c'est valable, je pense, pour l'ensemble Landes, Pays Basque français, Pays Basque espagnol, les fêtes sont essentiellement financées par les locaux, c'est-à-dire essentiellement la mairie, et puis les associations, et puis bien évidemment, on va avoir les bars, les restaurants qui vont faire beaucoup d'argent. C'est pas nouveau. Les fêtes de Bayonne ont été créées en 1932, au moment de la crise économique qui démarre en 1929 aux États-Unis et ensuite en Autriche, et on crée la fête pour dynamiser le commerce. Donc, on va pas se cacher derrière le petit doigt. La fête a une dimension commerciale, il n'y a pas de problème. La dimension commerciale n'est pas forcément une dimension capitaliste. Moi, je ferai une forte différence entre les fêtes autofinancées, dont par les associations, marchés, les bars et les restaurants, et finances publiques avec la mairie. Ça, c'est une modalité de fonctionnement de la fête qui la laisse autonome par rapport aux forces capitalistes, c'est-à-dire les grands groupes internationaux qui achètent une fête. On va mettre des tours opérateurs, on va faire du tourisme international, et puis on va avoir des grands alcooliers qui vont financer tout ça. C'est ce qui se passe, par exemple, les carnavals au Brésil. Les fêtes de Bayonne ou les fêtes du Pays Basque, les fêtes landaises, etc., une grande partie des fêtes françaises sont, d'une certaine manière, autogérées. Et de ce point de vue-là, il y a bien des gens qui gagnent de l'argent, mais c'est pas le taux de profit marchand qui fait qu'on va éliminer une fête, etc., etc. Cette autonomisation, je crois, est importante parce que ça couvre aussi bien les fêtes de rue que j'étudie, comme les rave parties, hein, il faut quand même les organiser, il faut payer quelque chose, etc. Le Hellfest coûte beaucoup plus cher que les fêtes de Bayonne, hein, donc c'est pas uniquement...
C'était un festival, hein, c'est pas vraiment une free party, mais je pense qu'Alexandre Grondeau pourra nous raconter, bien sûr.
Et par ailleurs, par exemple, ce dont on parle à l'heure actuelle beaucoup, des manières de faire de ce milliardaire qui veut racheter des fêtes, bah, si on accepte de l'argent, des paiements extérieurs qui viennent vous dire comment il faut faire la fête et comment il faut l'organiser, là on est dans un registre différent, ça c'est le milliardaire politique qui vient se mettre au milieu de la fête. Il y a des fêtes qui existent, il y a du commerce marchand, mais c'est pas une domination capitaliste qui vient troubler l'ordre festif. Alors, et la joie qui s'y produit.
Ce fameux milliardaire dont vous parlez s'appelle Pierre-Édouard Sterrin, homme d'affaires, catholique revendiqué, hein, dont l'activisme politique n'est plus un secret en France. Et effectivement, il a décidé d'investir les fêtes de village, qui sont effectivement des fêtes en général autofinancées, qui vivotent, hein, justement grâce aux buvettes d'alcool. Et c'était pour ça qu'il y a eu en Ardèche cette polémique avec la préfecture qui voulait interdire la vente d'alcool après minuit. D'ailleurs, arrêt de la préfecture pour l'information qui a été, disons, assouplie après une sorte de levée de bouclier des maires. Et alors, cette année, un nouveau label a été créé, les plus belles fêtes de France, et avec ce label, la promesse de créer un guide Michelin qui leur serait dédié, la tentative aussi de donner à ces fêtes, de renforcer dans ces fêtes l'imaginaire médiéval, ecclésiastique, traditionnel. Comment est-ce que vous réagissez à cette nouvelle, Emmanuel Lallemand, est-ce que la fête n'a pas toujours été investie par le politique ou est-ce qu'elle est réinvestie aujourd'hui d'une manière différente qu'elle ne l'était alors ?
Oui, il y a des usages sociaux et politiques très forts de la fête actuellement et on le voit dans cet exemple que je trouve un peu effectivement limite et donc emblématique, c'est-à-dire la manière dont quelqu'un qui effectivement est un grand milliardaire, un grand homme d'affaires plutôt d'extrême droite, vient réactiver des fêtes qui sont considérées effectivement comme assez identitaires locales. On voit que c'est un vieux motif de la fête, hein, de considérer effectivement qu'elle vient donner cette identité locale, la montrer aussi aux autres, c'est-à-dire à la fois la donner en spectacle, mais la vivre. Là, on a quelque chose quand même qui, dont l'histoire critique du folklore a déjà donné toutes les ficelles, hein. C'est-à-dire effectivement, l'extrême droite a toujours travaillé sur la question du patrimoine culturel matériel ou immatériel. Là, on voit qu'on a un usage, une instrumentalisation, hein, de ce qu'on appelait le folklore auparavant, en considérant effectivement que ces fêtes vont donner cette identité régionale, locale, et sont-elles ouvertes aux autres ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas, elles sont censées effectivement être autoproductrices de cette identité extrêmement bankable sur le marché des identités actuellement, qui est l'identité locale. Après, effectivement, le marché n'est pas loin, parce qu'on est là aussi pour créer de l'attractivité touristique, de l'attractivité locale. Mais il faut aussi voir comment politiquement tout cela est construit. On voit effectivement qu'il s'agit de labels. Les labels sont des choses qui sont extrêmement utilisées dans les politiques culturelles. Et c'est à la fois, le label, c'est toujours intéressant parce que c'est à la fois, ça relève du monde marchand et du monde culturel. Parce que finalement, on a une entreprise commerciale. mais qui ne veut pas créer une marque, qui veut créer un label. Parce que le label renvoie à l'histoire, on avait travaillé sur ces questions avec un collègue, Olivier Haim, c'est-à-dire que le label renvoie à l'histoire, renvoie au symbole, renvoie à l'authenticité, tandis que la marque renvoie tout de suite au monde marchand. Et là, de créer ce label, c'est assez malin finalement, parce qu'on est en train de créer une marque qui ne dit pas son nom, dans le cadre d'une entreprise commerciale qui est en plus une entreprise politique extrêmement identifiée.
Alexandre Grondeau.
Je souscris tout à fait à cette analyse. Le marketing territorial aujourd'hui a une double dimension qui est en même temps marchande et en même temps qui est de l'ordre plus des pouvoirs publics et de cette notion, fameuse notion d'attractivité qui était mentionnée auparavant. Et c'est pour ça que, en fait, il faut bien comprendre que l'objet fait est extrêmement intéressant au sens premier du terme, autant pour des activités commerciales, je souscris à cette analyse, que capitaliste dans une autre dimension, mais également pour le pouvoir politique, parce que elle permet de travailler une identité, elle permet de travailler un positionnement, elle permet de travailler une histoire, parfois même de la réécrire, et par cet acte en fait normatif, le pouvoir public ou le pouvoir économique a la capacité réfléchi, pensé ou non, d'exclure un certain nombre de publics de ces fêtes. Les différents événements qui ont pu avoir lieu donnant à la violence communautaire au sein de fêtes de village illustrent justement ces paradoxes qu'on peut avoir au sens du contrôle de la fête et du fait que cette notion-là devient un enjeu de pouvoir extrêmement important. C'est la raison pour laquelle il peut être intéressant d'imaginer les valeurs et les éléments qui structurent des espaces non normés ni contrôlés par des pouvoirs, qu'ils soient politiques ou financiers, qu'ils soient pas détenteurs des droits de surveillance ou de punition comme le disait Foucault à l'époque.
Alors justement, il y a des fêtes qui plaisent aux politiques, d'autres qui ne plaisent pas. Alexandre Grondeau, vous êtes justement spécialiste des fêtes qui n'ont pas forcément la faveur du politique. Il y a une proposition de loi, vous aviez déjà réagi à l'époque, qui a été portée par des députés Ensemble et Horizon, qui visait à renforcer la pénalisation de l'organisation des free parties, dont vous avez fait un terrain de recherche. Le projet de loi a été déposé en mars dernier. À quoi est-ce que, selon vous, réagit cette loi ? Est-ce que c'est au développement des free parties ou est-ce que c'est une question un besoin de sécuriser les espaces festifs ?
Alors d'abord, c'est une proposition de loi qui, par ailleurs, a peu de chances d'arriver.
Peu de chances d'aboutir, oui.
Voilà, ça je tiens à le préciser. Mais on va dire que la manière dont a été proposée cette proposition de loi est quelque peu outrancière et fait un peu... l'économie de toute la littérature scientifique et des analyses que sociologues, géographes, urbanistes et philosophes ont pu mener là-dessus. Donc ma réaction à l'époque était de dire qu'il faut faire attention à ce dont on parle. Et la première question à laquelle on devrait répondre, c'est pourquoi chaque semaine, en France, des dizaines, des centaines de fêtes libres amplifiées ont lieu et réunissent des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Sans d'ailleurs, pour le coup, la plupart du temps, de problèmes de violence ou de complications, quelles qu'elles soient, parce que, je tiens à le préciser, la free party est rentrée dans les mœurs, hein, la free party comme entendue comme une... Je précise, parce que tout à l'heure, mon collègue parlait de rêve, et on va dire que la rêve party est la version marchande de la free party, qui est une organisation socio-spatiale festive amplifiée, alternative, libre, autogérée et émancipatrice. Alors, de la société de consommation.
Pardonnez-moi, mais si on voulait ne pas faire des grands mots, une free party, c'est une fête dans un champ, dans un bois, sans organisateur identifié. Vous pouvez nous expliquer très simplement de quoi on parle, parce que vous parlez de cet endroit de la free party comme un espace d'une fête qui serait pure d'une certaine manière, qui serait à l'essence même de la fête.
Alors, je pense qu'il faut faire toujours attention avec le terme de pureté, à mon avis, est pas associé oui, au terme festif, mais pour le coup, pour répondre plus simplement à la définition de la free party, c'est une fête autogérée où tout le monde peut venir, quelle que soit sa condition de genre, de couleur de peau, d'opinion politique. Voilà.
France Culture, question du soir. Matteo Carantin.
Vous êtes bien sur France Culture. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h pour une émission consacrée ce soir à la fête, à ses modalités, ses transformations, ses pas de côté peut-être, en compagnie de Philippe Steiner, professeur émérite de sociologie à Sorbonne Université, Emmanuel Lallemand, anthropologue du monde urbain, professeur à l'Institut des études européennes de l'Université Paris 8, Alexandre Gondreau, professeur en géographie à Aix-Marseille Université. Et nous parlions à l'instant de l'essence de la fête, pour ne pas dire de la pureté. Qu'est-ce qui fait la fête, au fond? Est-ce que c'est le fait de se réunir? Est-ce que c'est le fait de danser, Emmanuel Lallemand?
Alors la fête, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois un cadre théorique, notamment d'anthropologie qui est ma discipline, mais c'est aussi un phénomène empirique. Alors le cadre théorique, il dit effectivement que c'est du collectif, c'est de la célébration et du divertissement, comme disait Durkheim. C'est effectivement un chaos bien organisé, donc je rebondis sur ce qui vient d'être dit, c'est pas parce que c'est autogéré que c'est un phénomène spontané. L'autogestion demande beaucoup de travail, voire une ingénierie très très poussée. Et puis à côté de ça, effectivement, c'est un phénomène empirique au sens où il y a une variété de fêtes à travers le monde. D'ailleurs, c'est ce qui marque souvent les caractéristiques culturelles des régions, des pays, des villes. Donc on voit effectivement...
Donc il y a une sorte d'universalité de la fête.
Voilà, il y a une universalité. C'est un phénomène universel. On dit souvent qu'il n'y a pas de société qui n'organise pas de fêtes. On dit même que les dictatures organisent des fêtes. Donc on voit que tous les régimes politiques, finalement, ont besoin d'avoir des formes festives. Encadré, évidemment. Mais donc, c'est à la fois un phénomène extrêmement varié. Et on le voit, il est traversé par la variété de nos sociétés. Et il suffit d'y lire des différences générationnelles. Je parlais des différences de genre tout à l'heure. On peut parler des différences de catégorie sociale, des différences de couleur de peau, des différences, enfin voilà, dans le monde rural, dans le monde urbain, d'orientation sexuelle, de communauté. On voit effectivement que ça fonctionne comme un phénomène empirique extrêmement varié, mais qui est organisé, qui est catégorisé. Comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des fêtes considérées comme moins légitimes que d'autres. On l'a vu très très clairement pendant le Covid, où souvenons-nous quand même de ce Noël, de ces vacances de Noël, où la fête de Noël, donc qui marque quand même, c'est une fête religieuse au départ, était autorisée, tandis que le Nouvel An était interdit. On le voit là, il y a un label qui va venir organiser un certain nombre de fêtes dans le monde rural ou dans les petites villes qui ont une trame souvent religieuse, avec des fêtes patronales, avec des fêtes qui correspondent quand même à des traditions extrêmement catholiques. Et à côté de ça, tout ce qui va être considéré comme des fêtes plus débordantes, plus celles de l'espace public, les fêtes des jeunes en banlieue sont souvent considérées comme plus débordantes. On voit bien qu'il y a une catégorisation et qu'il y a vraiment un écran de la norme qui nous empêche de voir effectivement les fêtes comme un phénomène universel, mais un examen approfondi montre que c'est pas la fête en tant que telle qui est intéressante, c'est vraiment les usages sociaux et politiques qu'on en fait.
Mais c'est intéressant parce que vous parliez du Covid, parce que il y a eu après le Covid, ce moment de suspension collective, d'enfermement collectif, une espèce de rebond de la fête, comme si la fête était un besoin, et non seulement un besoin, mais un besoin cumulatif, c'est-à-dire que moins on fait la fête, plus on a besoin de la faire.
Oui, c'est-à-dire, comme je disais, on a eu une mise à l'agenda de la fête et une mise à l'index en même temps. C'est-à-dire, ça a été une période qui a mis en évidence, qui a mis en lumière cette espèce de polarisation autour de la fête, soit une accusation, une stigmatisation des fêtards comme des irresponsables, soit au contraire, la fête comme une nécessité, quelque chose qui est de l'ordre de la nécessité, non pas biologique, mais sociale. Et à la fin du confinement, il fallait de redevenir extrêmement festif, comme une sorte d'injonction à la fête, ou bien d'une forme de domaine d'extension du domaine de la fête, où rien que d'aller en terrasse était considéré comme festif, aller au cinéma faisait partie des pratiques festives. Donc on voit que c'est des moments de crise qui sont très intéressants pour observer le phénomène festif.
Alexandre Gondeau, vous souhaitez réagir, et puis Philippe Steiner, je vous donne la parole.
Oui, on a mené au laboratoire Telem et à Aix-Marseille Université plusieurs enquêtes en fait sur les usages de la fête pendant le Covid. Et une des choses qui est plus intéressante, un des résultats qui était le plus intéressant, c'était que les Français, dans leur majorité, fêtards, étaient et avaient fait connaissance, avaient rencontré la fête transgressive, parce qu'en fait, ils n'avaient plus le droit de faire la fête et ils avaient envie de le faire. Et donc, c'est assez étonnant, parce que ce que vivaient les amateurs de fêtes libres, de free party au quotidien, finalement, pendant le Covid, eh ben, beaucoup de Français qui souhaitaient faire la fête se sont retrouvés donc à transgresser les lois pour justement se retrouver, réouvrir des bars, installer une sono dans une rue, alors qu'ils écoutaient pas du tout de la techno, mais n'importe quel autre style de musique, et qu'ils avaient jamais rencontré et fréquenté le mouvement Technival. Mais d'un coup, ils se rendaient compte ce que c'était un État qui pouvait lutter contre la fête. Et pour le coup, je rejoins ce qui a été dit par ma collègue auparavant, c'est vrai qu'on s'est retrouvé dans une nécessité collective, parce que la fête est un élément constitutif de la culture, hein. L'homme, l'homo ludens, c'est l'homme et l'invention de la culture. Pour le coup, c'est vrai que après le Covid, les Français, il y a eu un mécanisme d'appel d'air pour et autour de la fête, il fallait faire la fête.
L'homo ludens, l'homme qui joue, je voyais pensif Philippe Steiner.
Non, je réfléchissais à la question que vous avez posée tout à l'heure là sur l'essence de la fête. Alors, les sociologues n'aiment pas trop essentialiser leurs réponses, mais je crois que au travers de ce qui a été dit, et je voudrais juste rebondir là-dessus, il y a l'idée que le fait de se réunir, de faire foule d'une certaine façon quand il s'agit des grandes fêtes, ou même se retrouver un petit groupe familial ou amical, etc., surtout après le Covid où on était interdit de relations sociales, la fête, c'est du relationnel. Essentiellement du relationnel. C'est ce qui fait d'ailleurs que, immédiatement, j'ai compris qu'avec le Covid, il ne pouvait pas y avoir de fête, et pendant 2 ans, effectivement, il n'y a pas eu de fête. En tout cas, les grandes fêtes de rue, ou même les fêtes familiales à Noël, effectivement, c'était pas possible. Donc, la fête, c'est un moment relationnel très important, où à la fois, on va voir, je prends l'étude qu'on a réalisée il y a 5 ans, et qu'on redouble là maintenant, la fête, même la fête de rue, c'est une fête où l'on va au milieu d'une immense foule, mais on n'y va pas tout seul. On y va en petits groupes, ou en grands groupes, des groupes basés sur la famille, des relations familiales, les relations amicales, ou les relations professionnelles, ou parfois les relations de genre. Il y a une journée aux fêtes de Bayonne, c'est la journée des femmes, en quelque sorte, elles vont faire la fête toutes seules, enfin entre elles, et après elles rejoignent leurs compagnons, leurs maris, etc. Donc c'est cette dimension relationnelle, je crois, qui fait l'élément central de la fête, et que Durkheim traduit avec l'idée d'effervescence sociale. Il se passe quelque chose qui se passe pas d'habitude. On va avoir du relationnel, mais pas sur le même mode. Ma compagne a dansé pendant 10 minutes avec un jeune homme qu'elle n'a jamais connu, qu'elle ne connaîtra jamais, qu'elle a rencontré comme ça pendant 5 minutes pendant les fêtes. Et puis après, on est passé à autre chose. Et c'est ces petits moments de joie qui émergent grâce à ce relationnel. Un relationnel qui a aussi une dimension politique. Parce que c'est, notamment dans les fêtes de rue...
Danser avec un inconnu, c'est ne pas avoir peur de cet inconnu.
Déjà, d'une part. Et puis aussi le fait que y a certains groupes qui vont venir avec leur culture musicale, leur danse. Ils vont prendre la rue, ils vont devenir visibles. On va les voir, on va se compter. Éventuellement, si on prépare des nourritures locales liées à tel ou tel groupe social, eh ben on va faire un petit peu d'argent, etc., etc. Donc, la fête relationnelle, c'est aussi une fête identitaire qui peut être soit en accord avec l'organisation elle-même, soit en désaccord avec elle. Au Pays Basque, les militants basques, au début, étaient mis de côté, et ils ont fini par rentrer, à modifier la fête grâce à la vie culturelle basque très importante. Et désormais, ils sont partie prenante pleinement de la fête. Donc, on a des modifications d'identité. Au Brésil, la samba est une musique qui était interdite. C'était la musique des Africains,
des esclaves.
Oui. Et... avec Getúlio Vargas, avec l'Estado Novo en 1930, on leur a dit non, vous venez, vous faites partie de l'identité brésilienne qu'il essaye de construire avec 3 symboles, le football, la feijoada et la samba, et donc le carnaval de Rio.
Vous avez de chouettes terrains de recherche,
voilà,
quand même, Philippe Steiner,
il faut le dire. L'identité qui était discriminée grâce à la fête peut prendre une place très importante dans le pays.
Emmanuel Lallemand, on vient d'entendre cette idée de fête relationnelle, de la possibilité d'accepter l'aléatoire. Il y a un autre événement que le Covid qui est peut-être plus un mouvement de fond, qui est le mouvement MeToo, qui est le mouvement de reconsidération justement des relations et de la manière dont on se meut dans l'espace interrelationnel. Est-ce que MeToo a changé la fête aussi ?
MeToo réinterroge la fête, hein. C'est-à-dire, comme je le disais au départ, c'est une expérience sociale, la fête qui vient refléter les grandes questions qu'on se pose par ailleurs. C'est jamais vraiment une véritable rupture par rapport à l'ordre social, à la vie sociale. C'en est une continuité sous d'autres formes. Et donc, toutes les grandes questions qu'on se pose actuellement, on se les pose aussi dans la fête. La place des femmes devient effectivement très très importante
dans la fête.
Par exemple,
dans l'espace de la danse.
Dans l'espace de la danse, ont été mis en lumière la mise en danger des femmes dans les espaces festifs. Et donc, la manière dont les professionnels actuellement de la fête travaillent à ces questions-là et les travaillent de manière extrêmement sérieuse, extrêmement ancrée pour montrer effectivement que la fête se doit d'être actuellement inclusive et non pas seulement dans un caractère de bienveillance, mais un caractère de vraiment faire une expérience sociale de cette inclusivité, de la manière dont une femme, une jeune fille peut être présente dans la fête. Et ça va jusqu'à aussi poser la question des populations vulnérables. Il y a un groupe qui s'appelle les Dévalideuses, qui travaille aussi sur les personnes en situation de handicap dans les espaces festifs, qui revendiquent cette place et la manière de faire la fête quand on est en situation de handicap. Donc on voit bien que la fête est traversée par les questions de notre société. Et c'est ça qui en fait un lieu d'observation absolument passionnant.
Alexandre Gondeau, vous souhaitez réagir?
Oui, d'une certaine manière, la fête est révélatrice de l'humanité, pour ne pas dire de notre humanité. Et donc, refuser la fête à un groupe d'individus ou un individu, c'est aussi lui retirer une part de son humanité, même provisoirement. Et pour reprendre un terrain également tout à fait intéressant, c'est en Jamaïque, à Kingston, dans les années 30-40, qu'a été inventé le sound system, c'est-à-dire la sono qui permet aux habitants du ghetto de faire la fête, dont ils sont exclus par les habitants un peu plus riches, en raison de leur couleur de peau, de leur manière de s'habiller. Et cette invention du sound system va ensuite, avec l'immigration jamaïcaine à New York, donner les block parties, donc l'invention du hip-hop par couleur en 73, et puis en Angleterre va donner les blues parties, puis les free parties qui vont descendre en Europe. Et pour le coup, c'est aussi intéressant de voir l'ingéniosité populaire et des citoyens face à une impossibilité d'avoir accès à une fête.
Alors on parle de fête politique, vous avez dit à l'instant l'idée de fête inclusive. Vous souhaitez réagir rapidement, c'est ça Emmanuel Lallemand ?
Non, pour prolonger cette question de la fête politique, c'est-à-dire de voir comment les fêtes actuellement peuvent faire partie des répertoires d'action dans une pratique militante, hein, effectivement. Et les manifestations actuellement ont toutes des performances dansées sous forme festive, et les fêtes sont des lieux où s'affirme un certain nombre de revendications
politiques.
Et des
collectifs de DJ climatiques, d'une certaine manière, s'organisent. Alors justement, vous parlez de fêtes inclusives. Tout à l'heure, on a parlé de ces fêtes identitaires, peut-être, qui étaient poussées. Est-ce qu'il y a une polarisation de la fête ? Est-ce qu'il y a une fragmentation de la fête ? Est-ce que, comme dans le reste de l'espace public, comme le débat public qui se détériore, la fête elle-même est en train de créer des ghettos, disons, politiques ou identitaires ?
La fête se fragmente, effectivement. Elle se multiplie et se fragmente. Elle fait l'objet d'usages très différenciés. Elle fait l'objet de discours extrêmement différenciés, voire différenciants. Et donc, la fête appartient aussi à des groupes. Et ces groupes peuvent en avoir, effectivement, des objectifs tout à fait différents.
On pourrait penser naïvement que la fête, c'est l'endroit où justement on met à plat ces différences.
Voilà, il n'y a pas une égalisation de tous les participants dans toutes les fêtes. Bien au contraire, les fêtes peuvent être des réaffirmations de groupes extrêmement restreints, voire de groupes extrêmement fermés, très exclusifs, et des lieux de revendication d'un certain nombre d'idées, qui peuvent être des idées d'extrême droite notamment.
Ou de gauche climatique, vous le disiez.
Absolument,
des mouvements militants.
De revendications féministes.
Voilà. Philippe Steiner, à quoi ça sert la fête ? Qu'est-ce qu'on apprend lorsque on fait la fête ?
J'espère qu'on n'apprend rien, parce que il faut que ça soit
gratuité.
Oui, un peu de gratuité. Pas de gratuité où on n'apprend rien. On est content, on est joyeux, on en profite pour rencontrer des gens qu'on n'avait jamais rencontrés, on retrouve des amis, et puis parfois, tout simplement, c'est un peu morne, on s'ennuie, puis on rentre chez soi, ça arrive aussi. Mais la fête, à mon avis, n'a pas. Elle peut être vue d'un point de vue fonctionnel, mais j'ai pas le sentiment que c'est forcément le point le plus intéressant pour l'examiner. Je pense que c'est plus la fête, c'est quelque chose que l'on attend. On attend la fête. Il y a des dates, surtout pour les fêtes rituelles, etc. Il y a des dates, on les attend et on va voir ce qui se passe. Ça peut être génial, comme ça ne peut pas l'être. Et puis quand ça se passe bien, eh ben on a après l'attente, on a des souvenirs, on les partage, on met les photos sur sa page Facebook pour les plus vieux. Les autres, ils utilisent TikTok ou Instagram.
Dans son album photo de famille.
Voilà, ou les photos de famille. Mais là, y compris photos pendant la fête, on a cette possibilité et qui veut dire en fait, regardez comment on s'amuse bien, mais regardez. Venez aussi, c'est bien, c'est là où ça se passe. Et donc, en ce sens-là, je crois que c'est un moment vécu important, un moment de joie, et suivant la formule qu'employait Spinoza, excusez de cette réflexion, peut-être un peu trop philosophique et lointaine, mais la joie, c'est une passion qui vous rend plus fort, qui vous permet de faire plus de choses, c'est un plus de vie. Et je crois que d'une certaine façon, ce qu'on apprend pendant la fête, c'est qu'on est capable de cette plus de vie, de cette dépense d'énergie, de cette joie. Ça s'éteint et puis ça reprend et c'est comme ça la vie.
Vous êtes d'accord, Alexandre Grondeau, la fête, c'est l'endroit de plus de vie, l'endroit gratuit de plus de vie?
Alors moi, je suis tout à fait d'accord. J'aime bien aussi cette définition un peu plus freudienne de la fête comme espace de transgression avec les interdits, d'excès permis, une violation solennelle d'une prohibition. Voilà. Et c'est aussi Durkheim qui disait la fête, c'est un exutoire. Donc c'est pour ça que la fête, c'est vraiment une notion polymorphe extrêmement complexe à aborder avec différentes typologies et usages différenciés. Et pour le coup, elle nous réunit autant qu'elle nous fragmente et c'est ça qui est tout à fait passionnant dans son étude.
Emmanuel Lallemand, pour le mot de la fin de cette émission qui arrive déjà à la fin.
Oui, alors je dirais aussi que la fête, c'est certes quelque chose qui n'a pas de fonction, mais qui a des significations. C'est-à-dire qu'on veut toujours lui donner quand même un sens. Et depuis toujours, cette fête, on dit, voilà, c'est une fête pour consacrer le temps, pour transformer du biologique en social avec les âges de la vie, c'est pour organiser le calendrier entre le temps profane et le temps sacré, c'est pour, dans les fêtes plus contemporaines, se rassembler dans l'anonymat des villes, alors que d'habitude, on ne se rassemble pas. Donc, si elle n'a pas de fonction, on lui donne toujours des significations. Et dans la question « où va la fête », on voit bien ce désir toujours de vouloir lui donner un sens. Donc voilà, où va la fête ? Donner un sens à la fête, c'est complètement raccord avec ce moment de totale incertitude que nous vivons actuellement.
Et bien, pour reprendre vos conseils et votre constat, Philippe Steiner, on attend la fête. J'espère que vous la trouverez et vous pourrez la suivre où qu'elle aille. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation sur France Culture. Philippe Steiner, professeur émérite de sociologie à Sorbonne Université. Emmanuel Lallemand, anthropologue du monde urbain, professeur d'université à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8, membre de l'AVU, Laboratoire Architecture, Ville, Urbanisme et Environnement, et Alexandre Grondeau à distance. Merci de vous être connecté, professeur en géographie à Aix-Marseille Université, directeur adjoint du laboratoire TLM. L'émission de ce soir a été préparée par à peu près toute l'équipe. Paul Weinarter, Théa Corler, Aloïs Guérin à la programmation, Maud Yaïs, Alice Chavaran, Vivian Lecuivre à la réalisation. Merci à toutes, merci à tous pour ce mois joyeux, presque festif, passé ensemble à penser et préparer ces émissions. Merci à Ludo Auger d'avoir tenu les manettes de DJ ce soir. C'était la dernière pour moi, mais lundi vous retrouverez Marguerite Caton qui prend ce micro tout le mois d'août, rendez-vous donc 18h15 comme toujours pour un sujet un petit peu plus sérieux que le nôtre, bien qu'il me semble que la fête, on l'a compris, mérite de s'y pencher sérieusement. Accord UE-USA, l'Europe aurait-elle pu faire mieux? Et en attendant, très bonne soirée, très bon week-end sur France Culture.